Donc, je commence. Donc, la dernière fois, on a vu l'hindouisme, ce qui m'a permis de vous parler d'un contexte historico-géographique de l'Inde ancienne, et déjà de vous annoncer que le bouddhisme n'était pas une branche de l'hindouisme, contrairement à ce que disent les hindous encore souvent, pour des raisons purement nationalistes, qui sont liées vraiment à l'Inde moderne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les religions de l'Est, que sont le jaïnisme et le bouddhisme, sont nées indépendamment du courant brahmanique, qui s'est manifesté donc en Inde vers le 1500 ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais alors, le jaïnisme est assez ancien, le bouddhisme un peu moins, puisqu'il apparaît au 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein, le Bouddha, c'est un personnage historique attesté. Ah oui, il est attesté maintenant, avant Jésus-Christ, oui, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est né dans, c'est le nord, c'est le sud du Népal, dans le Terai. Et puis, il a beaucoup enseigné dans la région du Magadha, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Inde. Hein, il s'est baladé beaucoup. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le Bouddha historique? Ben, c'est pas un prophète, c'est pas comment dire, c'est pas un dieu, mais c'est pas un homme non plus, du point de vue bouddhiste. Ça va vous paraître un peu paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un iti, si on veut. Non, en fait, tout simplement, bien sûr qu'il se manifeste sous une forme humaine. Il a un parcours de multiples vies avant son éveil. Et sa dernière vie, disons, en tant que manifestée sous la forme d'un être, disons, pour enseigner, c'est sous la forme humaine. Et donc, il apparaît sous la forme humaine au 6e siècle avant Jésus-Christ, et il va enseigner surtout à partir de ses 33 ou 35 ans, ça nous rappelle quelqu'un d'autre, où il a atteint son éveil, et il va enseigner jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, c'est exceptionnellement long pour un fondateur de religion que d'enseigner 45 ans. Hein? Et il n'a pas cessé d'enseigner à partir du moment où il a eu cet éveil. Donc, vous vous étonnerez pas qu'il y a énormément d'écrits dans le bouddhisme. Hein? Si, par exemple, je prends l'exemple du canon tibétain, c'est 110 volumes, et ce n'est pas des petits volumes. Et le paracanon, c'est-à-dire les commentaires des textes indiens, c'est 225 volumes. Ça, ce n'est que le canon. Après, vous avez tous les commentaires, etc., qui se sont échelonnés au cours des siècles. Et c'est des dizaines de milliers de volumes, rien que dans le bouddhisme tibétain. Et dans le bouddhisme sino-japonais, il y a énormément également de littérature. Et il y a le canon pali aussi pour le sud-est asiatique, qui correspond vraiment à des écrits, soi-disant, les plus anciens, qui déjà ferait bien une bonne quarantaine ou cinquantaine de volumes de la Pléiade, hein, bien serré. Voilà. C'est pour vous dire que c'est une religion de la bibliothèque plus que du livre. Donc une religion qui d'emblée va être très érudite aussi, pas seulement la question se pose, qu'est-ce qu'il a enseigné? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est une religion? Ni oui, ni non, parce que c'est un peu tout ça, mais c'est plus que tout ça. C'est-à-dire que on peut dire que c'est une voie spirituelle qu'il enseigne, en effet. C'est une voie spirituelle avec une forme de transcendance, mais la transcendance dans le bouddhisme, elle est dans l'immanence, dans le sens, elle est dans chacun de nous. C'est-à-dire que nous avons chacun la potentialité de devenir un être éveillé, c'est-à-dire un Bouddha comme le Bouddha lui-même. Donc, du coup, le Bouddha se présente plutôt comme un guide que comme un prophète ou comme un sauveur. Et il n'y a pas l'idée d'un sauveur dans le bouddhisme. Non, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui a réalisé ce qu'on appelle l'éveil, c'est un état de totalité affranchi de tous les conditionnements qui fait que son esprit, justement, est totalement libre et totalement omniscient du fait qu'en fait, il a déchiré tous les voiles, en quelque sorte, d'obscurcissement qui peuvent exister dans l'esprit. Et par conséquent, ça lui donne une capacité de compassion et de moyens à développer pour aider les êtres, justement, à trouver leur chemin, qui est absolument faramineuse. Donc, le bouddhisme va proposer de multiples moyens d'émancipation, de multiples moyens de libération. Alors, c'est donc, de ce point de vue, une voie spirituelle, ça c'est sûr, avec un programme de sotériologie, d'émancipation, de libération, hein, la libération étant cet état éveillé qu'on appelle l'état de Bouddha, qui peut être atteint par tout un chacun dès l'instant où il s'en donne les moyens. Mais il s'en donne les moyens. Ce n'est pas une religion pour feignants. Il faut bosser, il faut pratiquer, il faut réfléchir beaucoup et il faut comprendre son esprit. Et le comprendre pas seulement d'un point de vue psychologique, parce que la psychologie ne regarde que l'esprit superficiel. Mais l'esprit profond n'a rien à voir avec ce que notre psychologie nous enseigne. Donc, c'est un domaine totalement inconnu de la psychologie occidentale. C'est ce qu'on appelle la nature fondamentale de l'esprit. Et donc, voilà, c'est ça, vraiment, ce bouddhisme, une voie spirituelle profonde d'émancipation et qui, bien sûr, étant donné que ça concerne chaque individu, ça ne va pas être une religion aussi de type social. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'il n'y a aucune loi imposée à une société dans le bouddhisme. Il n'y a que des enseignements qui sont proposés à tout un chacun. Et bien sûr, il y a une communauté qui va se former autour de ces enseignements, mais par volonté individuelle. Il n'y a absolument aucune contrainte sociale de ce point de vue. Dans les pays bouddhistes, vous pouvez très bien quitter le bouddhisme, on ne vous caillassera pas pour autant. Hein? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles et qu'il n'y a pas des choses précises. Mais il y a quand même d'emblée une certaine liberté qui est liée au fait qu'on prend les gens pour des adultes et pas pour des enfants. Donc, vous voyez, c'est un exemple que donnait un de mes maîtres bouddhistes, c'est s'il y a un pot qui est rempli de poison, ben les gens les plus lucides et les plus clairs n'ont pas besoin qu'on mette une étiquette ni quoi que ce soit. Ils sauront que c'est du poison, tout simplement, parce qu'ils ont la lucidité pour le savoir. Il y a des gens, il faut leur mettre une étiquette, et ça suffira pour les empêcher. Mais il y en a, ils ne sauront pas lire l'étiquette. Donc, il faut leur mettre une barrière. Vous voyez ? Donc, et voilà, et les religions vont se répartir selon ces types de modèles, vous voyez ? Ben, le bouddhisme, ça serait plutôt le premier modèle. Ou alors, avec un avertissement, une étiquette, quand il le faut, mais pas plus. Hein ? Chacun est responsable de son existence et de ce qu'il va en faire, d'une certaine manière. Et quel est le projet du Bouddha? Je ne vais pas refaire sur sa biographie, hein, parce que vous la trouvez abondamment partout, mais grosso modo, son hagiographie dit que c'est un prince qui naît dans des conditions très favorables. Son père a eu un voyant qui lui a dit s'il est en contact avec la souffrance, il va renoncer à son royaume et il va faire une quête spirituelle. Et si par contre, vous réussissez à l'empêcher d'avoir un contact avec la souffrance, ce sera un grand roi. Bon, alors évidemment, son père fait tout pour que ce soit un grand roi, sauf que ça ne marche pas. Évidemment, à un moment donné, il s'embête bien dans son palais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va avec son cocher dans la ville et là, il voit un malade, un vieillard, un cadavre. Et là, il comprend la souffrance, il est adolescent à ce moment-là, et il voit un moine qui a l'air, un renonçant qui a l'air tout à fait détaché de tout et bien heureux. Et ça lui donne l'idée de quitter tout ce palais doré et de partir en quête, justement, de l'origine de la souffrance. Donc, sa quête, c'est véritablement comment on peut se débarrasser de la souffrance. Parce que pour lui, c'est le plus grand scandale de l'existence, c'est la souffrance, d'une certaine manière. Alors non pas qu'il soit naïf, etc., pas du tout, mais il est persuadé qu'il y a des causes racines de la souffrance et que c'est comme un arbre, si vous coupez l'arbre aux racines, il ne repoussera pas. Si par contre vous coupez les branches, ça va même lui donner plus de force. Voilà. Donc c'est, alors là on voit aussi d'emblée l'aspect très pragmatique hein, de l'enseignement du Bouddha. Donc il a constaté la souffrance, c'est la première vérité des nobles. Dans la deuxième vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une origine à la souffrance et il faut la trouver. Et lui, il l'a trouvé que c'était la soif d'existence, la convoitise, le manque. Vous voyez, le fait de ne pas savoir qui nous sommes finalement, qui est l'ignorance, mais aussi le fait qu'on s'accroche aux branches, ne sachant pas qui on est, où on est, comment on est. Et par conséquent, cette ignorance existentielle nous amène à s'accrocher à tout avec avidité. Et c'est ça qu'on appelle la soif. Et l'image pour la soif, c'est comme quelqu'un qui est dans le désert et qui voit de l'eau, qui prend cette eau, mais cette eau, elle est tiède et salée. Donc, ça ne cesse jamais, cette soif. C'est une avidité constamment renouvelée. Et regardez toute notre société de consommation qui est entièrement basée là-dessus. Hein? Et voyez où ça nous mène. Donc, voilà, c'est ça l'intérêt de voir vraiment cette soif comme étant la racine de la souffrance. Parce qu'elle est totalement insatiable et elle nous amène avec à encore plus de possessivité en quelque sorte de l'existence. Et puis quand quelque chose est désagréable, on va le repousser, on va le rejeter, et ça c'est l'attitude d'aversion et d'agression. Et l'agression, bah, ça va mener également à des dégâts pour les autres et pour soi-même. De même que le désir attachement, ça fait qu'on prend les êtres pour des objets aussi. Hein, quand on parle de la femme objet, bon, c'est de ça dont on parle. Mais il n'y a pas que la femme qui est l'objet. Hein, l'homme est l'objet de la femme également. Mais il n'y a pas que ça. C'est dans tout le sens du terme, pour tous nos désirs, dans lesquels on suscite un attachement très, très fort à l'égard des choses que l'on veut. Et vous voyez, maintenant, dans notre société, c'est en un seul clic. Donc, c'est encore pire, parce qu'on a le sentiment d'une toute-puissance. Hein. Et tout ça, évidemment, n'est qu'un piège qui nous amène en fait à souffrir, parce que quelque part, on crée en quelque sorte des penchants dans l'esprit, et ça va nous amener en fait à des tas d'inconvénients, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais satisfait. Déjà, ça, c'est une souffrance. Hein? Donc, cette origine de la souffrance, il faut vraiment bien la comprendre, et évidemment, elle naît où ? Ben, dans notre esprit, pardi. Par conséquent, si on maîtrise son esprit et si on comprend comment fonctionne notre esprit, on peut très bien venir à bout de la souffrance et de son origine. Alors, qu'est-ce que crée cette souffrance ? Le problème, c'est qu'elle nous pousse à avoir des intentions d'actes, et nos actes ont des résultats, des conséquences, non seulement à l'extérieur, mais aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire que la tonalité de l'acte, par exemple, un acte de possessivité ou un acte de violence, crée une propension à la possessivité et à la violence dans notre esprit. Et ça, ça va créer en quelque sorte des germes de situations existentielles ultérieures que nous rencontrerons parce que, en quelque sorte, c'est une loi de l'énergie, rien ne se perd. Mais l'énergie, elle est pliée d'une certaine manière, vous voyez, elle est orientée par l'intention de l'acte à nous faire faire des choses qui vont avoir une trace dans notre esprit. Et cette trace, tôt ou tard, elle mûrira. Et c'est ça qu'on appelle le karma. L'action comme une cause qui a des effets. Ce n'est pas très compliqué, le karma, à comprendre. Voyez ? Après, c'est compliqué parce que quand on creuse, c'est plus difficile à comprendre que comme ça en apparence. Mais ça, qu'est-ce que c'est la définition du karma ? C'est l'idée... c'est toute activité ou toute action faite en vue d'entretenir ou de perpétuer le sentiment du moi. Parce que si vous regardez bien dans la cause de la souffrance, c'est en fait c'est notre petit moi qui est la cause de la souffrance. C'est-à-dire on se construit un moi parce qu'on n'a aucune idée de ce que nous sommes véritablement. Donc, n'ayant pas l'idée véritablement de notre véritable nature, ben, on s'accroche à une fausse identité. Et c'est notre moi. Vous voyez ? Notre moi, c'est quoi ? Ben, c'est nos habitudes, c'est notre caractère, c'est un certain comportement, etc. Mais tout ça, ça change tout le temps. Donc, il n'y a rien de solide là-dedans. Mais on le reconstruit à chaque instant. Vous voyez ? Parce qu'on n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. Et ce moi devient, en quelque sorte, plus important que le reste du monde. Et c'est là où, justement, les autres passent derrière et souffrent aussi. Et nous, ça ne nous satisfait pas, puisque ce moi, de toute façon, est impermanent. Donc, à chaque instant, il périclite, à chaque instant, on le reconstruit. Et c'est, en fait, on est un petit peu, si vous voulez, comme un voyageur vagabond, sans domicile fixe, qui voyage sous une fausse identité. Voilà. C'est ça, notre condition. C'est ça, la condition humaine. Et ce voyageur, pourquoi je dis, il ne voyage pas seulement de la naissance à la mort. Parce que le karma est un conditionnement, est un potentiel dans notre esprit. Ben, au moment de la mort, il n'est pas réglé. Il y a toujours de l'essence dans le moteur. Donc notre esprit a suffisamment d'énergie vers la vie suivante. Mais cette vie sera orientée en fonction du type de karma qui a été le nôtre. Si on a passé son temps à trucider des gens pendant toute cette vie ou à voler des gens, on risque d'avoir effectivement une vie difficile la fois suivante parce que ça va être la même tonalité d'énergie qui va mûrir en nous que celle qu'on a produite par nos actes négatifs dans cette vie. Voyez ? Par contre, si on a été généreux, si on a été honnête, si on a été bienfaisant pour les autres, c'est évident qu'on va créer des bonnes conditions d'existence. Mais attention, toujours conditionné, puisque le karma, qu'il soit positif ou négatif, est un facteur conditionnant. Ça, même faire des bonnes actions ne suffit pas à se libérer. Et ça, c'est... Là, il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro. Ouais. Et donc, vous voyez le problème. C'est-à-dire que c'est là où on voit que c'est piégé, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il y a des conditionnements, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous sommes conditionnés. Donc, nous sommes quelque part prisonniers de ce conditionnement. Et c'est lié à notre attachement à nos idées, à nos concepts, à nos façons de regarder le monde, à nous projeter, à avoir une perception qui est biaisée. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Et tout ça est lié à la non-reconnaissance de notre véritable nature, fondamentale. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Et le Bouddha, dans la troisième vérité des neuf, nous dit qu'il y a quand même une cessation possible de la souffrance. Donc, c'est la première bonne nouvelle. Hein. Les deux premières ne sont pas terribles. La vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la troisième, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. Alors, que faut-il faire pour faire cesser la souffrance? C'est assez simple. Ça découle de la deuxième. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'enclencher les mécanismes qui nous mènent à la souffrance. Donc, faire cesser la soif. Et on ne fait pas cesser la soif en se détachant de la soif, parce que se détacher, c'est un mouvement contraire au fait de s'attacher, donc c'est encore une passion, c'est encore un klesha, c'est-à-dire un facteur passionnel qui va amener aussi la souffrance, parce que c'est une sorte de rejet. Donc, il faut arrêter de s'attacher, c'est-à-dire c'est un non-attachement qu'il faut arriver à trouver. C'est vraiment différent du détachement. Parce qu'il y a encore un aspect vraiment dans le détachement qui est une sorte de réaction contre. Et tant qu'on est dans une réaction, c'est qu'on est la proie de nos passions ou de nos émotions négatives. Donc, il s'agit de regarder son esprit et de travailler sur son esprit, fondamentalement. Hein. Donc, alors, la quatrième vérité nous dit le mode d'emploi pour pouvoir se libérer. Et cette quatrième noble vérité nous dit il faut avoir une vue juste sur le monde et sur soi-même, et être clair, arrêter d'être complètement dans le brouillard. C'est ce qu'on appelle la sagesse, hein, cultiver la sagesse, avoir une vue juste et des pensées justes. Parce que si nos pensées sont liées à une représentation illusoire du monde, nos pensées sont erronées. C'est aussi simple que ça. On est un peu comme une mouche, vous voyez, qui pense que le ciel est juste là, derrière la vitre, mais qui ne voit pas la vitre et qui se prend la vitre. Vous voyez ? Et c'est intéressant parce que, quelque part, cette façon de se planter, dans le bouddhisme, vous voyez, on ne parle pas de péché, on parle d'ignorance. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal en tant que tel, mais il y a l'ignorance. Et ça joue à peu près le même rôle que dans le christianisme. J'ai fait hier... une émission avec Forum Veritas sur YouTube, et il a fallu que j'essaye de faire passer cette notion-là à des chrétiens, mais ce n'était pas évident. En fait, il n'y a pas le mal, il n'y a pas besoin de personnifier le mal. Le mal, il naît en nous, tout simplement, par ignorance et par incompréhension de notre existence, par peur et par stratégie liée à cette peur et par égocentrisme. Il n'y a pas besoin d'invoquer une espèce de diable qui serait extérieur à nous. Et dans le bouddhisme, on n'invoque pas non plus un dieu qui serait créateur. C'est pas un système théiste. Vous voyez ? En fait, tout naît de notre esprit. Et chacun, en quelque sorte, a sa vision du monde. On a chacun notre vision du monde portative, quelque part, qui est liée à nos propres conditionnements individuels. Alors évidemment, vous allez me dire, mais comment on peut se retrouver dans un monde commun, comme ici, à se parler là ? Mais c'est tout simplement qu'on a chacun des karmas individuels qui permettent qu'on se retrouve là, par coïncidence, et que nous avons une interface d'échange par nos perceptions. Mais ça n'empêche que c'est individuel. Et votre monde, à chacun, n'est pas le même que celui des autres. Jamais. Il y a un pseudo-monde commun parce que nous avons une forme humaine. Mais un chat ne va pas voir la table comme nous. Pour lui, c'est un support pour s'asseoir, ou même il va se mettre plutôt sur l'ordinateur, vous voyez. Lui, il ne va pas utiliser l'ordinateur comme nous. Hein. Donc, chaque être va voir le monde différemment. Il faut comprendre que toute notre vision est purement relative à notre condition et n'a aucune espèce d'universalité. Quand vous avez des rêves dans la nuit, que vous racontez un rêve à quelqu'un, d'abord vous en racontez que des fragments en général, parce que vous n'êtes pas capable de vous rappeler tout le rêve, mais en plus, ce que vous racontez ne donnera pas à vivre à la personne ce que vous avez vécu. Donc ça, c'est totalement private. Hein. Et puis, il y a des choses, ben voilà, on va partager un repas, des choses, mais en même temps, on ne va pas forcément aimer les mêmes. Donc, en fait, il y a une infinité de sensibilités différentes pour chaque être. Parce que le nombre de karmas qui ont causé ces conditionnements est infini. On agit constamment. Et on crée donc des traces constamment dans notre esprit. Voyez. Donc, l'affaire urgente, c'est de regarder son esprit. D'arrêter de trouver des causes ou des conditions à nos problèmes à l'extérieur. Parce que finalement, on est simplement responsable de ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire coupable. Hein. On est simplement ignorant. Et donc, il va falloir travailler sur soi-même, effectivement, et plutôt que de porter la faute sur les autres. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un travail de retour à l'intérieur de soi-même, et ça va être le programme de la méditation. Donc, alors, on a parlé de la vue juste, et puis la pensée juste, mais après, il y a la discipline aussi, parce qu'il faut quand même maintenir une forme de discipline, étant donné qu'on est, tant qu'on n'est pas dans la vue juste, c'est bien quand même de prendre un certain nombre, soit de vœux, soit de décisions dans la vie, pour éviter de continuer à accumuler des causes négatives. Donc, il y a une éthique. L'éthique, ça va être les moyens d'existence justes. Donc, on ne peut plus être marchand d'armes, on ne peut plus être dealer, on ne peut plus être proxénète, et, etc. Vous voyez, il y a toute une liste déjà d'emplois, si j'ose dire, qui ne sont pas conseillés parce qu'ils sont cause de souffrance directe et immédiate. Donc, il y a une forme de moralisation de la vie en société, en quelque sorte, hein. Il y a les physiquement, ben, on va éviter de causer la mort et ou de vivre aux dépens de la vitalité des êtres. Et parce que le véritable précepte, c'est s'efforcer de ne pas vivre aux dépens de la force vitale des autres êtres. Ça va beaucoup plus loin que le fait de ne pas tuer. Parce que vous voyez, le chef d'entreprise qui se comporte en esclavagiste, ça arrive. Eh ben, il est en plein dans cette problématique. L'agriculteur, de l'agroalimentaire qui a une ferme de poulets dont il faut arracher le bec pour pas qu'elles s'entretuent tellement elles sont dans des conditions d'enfer, confinées dans des espaces absolument hallucinants, c'est sûr qu'il ne se fait pas un bon karma. Hein. Il faut vraiment regarder un peu ce qu'on produit, vous voyez, parce qu'on n'aurait pas produit ça avant-guerre. Hein. Je vous signale que s'il n'y avait pas eu les camps de concentration, je pense qu'on n'aurait pas eu l'agroalimentaire tel qu'on l'a maintenant. C'est quelque chose, il faudrait y réfléchir un peu. Il y a eu une sorte de... le lien, c'est que quelque part, pour l'humain, c'était une horreur et on n'a dit plus jamais ça, quoique ça arrive encore en Chine.
Ça arrive encore aujourd'hui dans certains pays.
Bien sûr. Mais en même temps, si vous voulez, ça a donné une sorte de permission à un certain niveau, en tout cas dans le monde animal. On n'aurait jamais fait ça. Les agriculteurs d'avant-guerre n'auraient jamais fait ça, franchement. Ils ne seraient pas industrialisés au point d'une totale insensibilité à l'égard du monde animal. Je ne pense pas. Ce n'était pas le même rapport, vous voyez. Et voilà, donc cet aspect-là est quand même assez important et on sait que ça crée des ravages parce que si on a des épidémies, c'est bien à cause des concentrations animales. C'est clair, maintenant. Donc, si on veut arrêter d'avoir des confinements à répétition dans le futur, il faudrait peut-être changer l'agriculture.
L'éducation, ça veut dire qu'actuellement, il y a une surpopulation.
Ben, bien sûr.
Donc, il y a ce phénomène de pandémie, il y en a d'autres qu'on a connu, qu'on est aujourd'hui focalisé sur une pandémie, alors qu'il y en a d'autres. D'autres virus qui circulent.
Bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que les circulations dans des milieux animaux concentrés par l'homme, c'est une catastrophe.
Si je peux reprendre, on accuse toujours les animaux.
Eh bien oui, mais c'est les êtres humains qui créent la condition, bien sûr. Voilà. Donc, c'est nous qui avons, disons, une force par notre intelligence, malheureusement, biaisée par notre ignorance, n'est-ce pas? Parce que, attention, l'ignorance, c'est ça qui est assez piégé dans le bouddhisme. On va vous dire, oui, l'ignorance peut être intelligente. Elle peut se croire intelligente. Ben oui, vous construisez tout un monde à partir de l'ignorance, vous l'interprétez d'une façon soi-disant intelligente. C'est pas pour autant que c'est fondamentalement et réellement intelligent. Mais ça peut le paraître pendant un certain temps. Et ça va créer beaucoup de souffrance. Voilà. Donc, alors, vous avez les moyens d'existence justes, ne pas s'efforcer donc de ne pas vivre ou dépendre de la vitalité en fait des autres êtres. Alors, bien sûr, on fait comme on peut, parce qu'il y a quand même un schéma pas très drôle dans le monde qui est un peu quand même prédateur, hein. Mais enfin, on peut éviter quand même un maximum de dégâts. Ne pas créer de souffrance aussi par l'avidité du plaisir, c'est-à-dire qu'on parle bien sûr souvent de la sexualité, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de sexualité dans le bouddhisme, ça veut dire avoir une attitude en quelque sorte de respect de l'autre dans la sexualité. Hein? Le consentement, grosso modo. Hein? Donc, pour un laïc, on ne va pas exiger une abstinence. Mais pour les moines, oui, bien sûr. Parce que les moines, ils choisissent cette vie-là. C'est eux qui le choisissent. Parce que c'est plus simple. Hein, ça enlève pas mal d'emmerdes. Hein. Quand il n'y a plus la sexualité en jeu, c'est sûr que ça aide à être un peu plus calme. Quoique, il faut avoir réglé ce problème. Et il y a beaucoup de moines qui ont des problèmes avec ça aussi. Non, c'est pas là qu'ils choisissent, c'est à 20 ans. Parce que dans les pays bouddhistes, souvent, le monastère sert d'école.
Voilà.
Voilà, tout à fait. Ils vont chez les curés.
Voilà. Et ça permet aussi parfois de tenir ces bouches que la famille ne peut plus.
Oui, oui, oui. Oui, bah, au Tibet, oui, c'était le puiné, il allait au monastère. Hein. Voilà. Mais on a eu ça aussi en Occident. Hein. Bon. Voilà, mais alors comme il y a également le fait de ne pas, avoir des paroles blessantes, des paroles grossières qui blessent, le mensonge évidemment n'est pas forcément autorisé, mais si un mensonge est utile pour sauver une vie, bien sûr, voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une intelligence dans le bouddhisme, dans les règles éthiques, hein. Il y a une adaptation aux circonstances. Oui, d'accord. Mais je dis déjà des choses assez essentielles. Ce n'est pas la peine que je rentre trop dans l'histoire, mais c'est plutôt de donner les grands principes vraiment du chemin. D'habitude, je suis plus systématique dans ces propos-là. La discipline, il y a une discipline du corps, il y a une discipline de la parole, il y a une discipline de l'esprit. C'est éviter la convoitise, éviter la malignité, en quelque sorte, à l'égard d'autrui, et éviter les vues fausses. Ça, c'est plus difficile, parce que ça veut dire, effectivement, se libérer de l'ignorance. Donc, faire un travail sur soi. Voilà. Donc, ça, c'est l'éthique. Et puis, le troisième volet, c'est la méditation. Et la méditation, c'est quoi dans le bouddhisme? Parce qu'attention, le mot méditation, ça veut dire beaucoup de choses. En Occident, on a tendance à croire que c'est une cogitation sur un sujet. Hein, méditation cartésienne. Non, c'est pas ça. Dans le bouddhisme, vous regardez votre esprit. Mais vous n'interagissez pas avec votre esprit. C'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe sans saisir ce qui se produit dans l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Si vous regardez votre esprit, si vous arrêtez à un moment donné d'être actif, que vous posez le dos droit, même sur une chaise, et que vous essayez de regarder votre esprit, qu'est-ce que vous allez voir? Beaucoup d'agitation, beaucoup de pensées, des émotions, des distractions, tout le temps. Ben là, dans la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de regarder ça tranquillement et de rester sur un point et de revenir à ce point à chaque fois qu'on s'en va et qu'on est embarqué par une pensée, par une émotion, etc. Et on se rend compte, en fait, que les pensées et les émotions n'ont de pouvoir que parce qu'on leur en donne. C'est un peu comme des VIP, vous voyez, enfin des VRP, je veux dire, des représentants de commerce. Il y a toujours une pensée, a toujours quelque chose à vous vendre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Et on est tellement des esclaves de nos pensées. Regardez à quel point, quand on a un souci, que ça nous empêche de dormir. Vous voyez, c'est ça l'esclavagisme de notre pensée. Et en fait, et les émotions, n'en parlons pas. On s'embarque dans l'émotion avant même qu'on soit aperçu qu'on était dedans. Donc, tout ça, ça exige une forme de calme, de ralentissement. On se pose, on ne bouge plus, on observe une respiration profonde et on essaye de garder, par exemple, le rythme d'une respiration. Essayez, par exemple, à titre comme ça, expérimental, de vous poser comme ça et de compter jusqu'à 21 respirations. Vous verrez déjà que c'est difficile d'aller jusqu'à 21 sans avoir été entraîné ailleurs. Et bien ça, c'est le début du calme mental. Et c'est indispensable d'avoir déjà une base de calme mental pour pouvoir observer avec plus de lucidité ce qui se passe dans l'esprit. Parce qu'une fois que tout ça s'est un peu calmé, vous commencez à regarder les pensées, les émotions d'une manière beaucoup plus directe, précise, parce que c'est un peu comme de l'eau agitée avec de la boue, vous voyez. Il y a un dicton en tibétain, Chumanyok Natang Samachunade, c'est quand de l'eau avec de l'argile est agitée, ben, elle est totalement boueuse. Mais si vous la laissez tranquille, la boue va tomber au fond et vous verrez la limpidité. Et ben, de même pour l'esprit, si vous ne le corrompez pas, si vous ne l'agitez pas, si vous ne trafiquez pas votre esprit, si vous le laissez tel quel, posé, dans le calme, il va devenir plus clair, plus limpide. Et là, vous allez pouvoir analyser méthodiquement la réalité, les phénomènes. Et vous allez voir que les phénomènes ne sont pas ce qu'on pense. Vous allez voir que les phénomènes que l'on croit réels, que l'on croit solides, n'ont pas de solidité, que ce ne sont que des phénomènes composés d'un ensemble de causes et de conditions convergentes et temporaires. Et que tout ça est tout le temps en évolution. Nous-mêmes, on n'est pas les mêmes que ce qu'on était il y a 5 minutes. On n'a pas les mêmes pensées. Notre esprit a déjà changé, même en 5 minutes. Et notre corps, mais il change tout le temps aussi. Et nos pensées, nos sensations changent tout le temps. Nos représentations mentales de l'univers changent tout le temps parce qu'on a des expériences variées. Et qu'est-ce qui reste de solide là-dedans? Allez, il n'y a rien de solide. Et là, on est dans une pensée philosophique anti-aristotélicienne, précisément l'opposé de ce qui nous amène en Occident à croire que nous sommes dans un monde avec des objets solides. Non, ce ne sont que des processus. On ne peut jamais saisir quelque chose dans la réalité qui soit réellement existant. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça s'appelle la vacuité, c'est-à-dire le fait d'être vide d'existence en soi et par soi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas existant, mais c'est une existence conditionnée qui s'écoule comme un flux, un peu à la façon d'Héraclite. Tu disais, Pantarei, tout s'écoule. Voilà, on aurait pu choisir, par exemple, cette option héraclitéenne en Occident. Manque de peau, on a choisi Aristote. Ben, ça a donné des choix de culture et de société différents. Comme quoi, la philosophie, il ne faut pas l'évacuer de la société, parce que c'est elle qui nous mène à des choix fondamentaux qui vraiment impliquent tout notre futur. En réalité, la philosophie est extrêmement importante. Donc voilà, il y a un aspect philosophique certain dans le bouddhisme, parce qu'il y a des traités sur la vacuité extrêmement complexes, parce que ça se démontre. On peut démontrer très facilement que l'essence d'un phénomène n'existe pas, parce que l'essence, personne ne l'a vue. Vous avez déjà vu l'essence d'un phénomène, vous ? C'est une idée, ce n'est pas une réalité. On ne voit que les caractéristiques d'un phénomène. Par exemple, si vous voyez une pomme, ben vous verrez sa forme, vous verrez sa couleur, vous sentirez peut-être son odeur, vous pourrez la goûter, etc. Mais vous ne toucherez jamais l'essence de la pomme. Est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce que c'est simplement un concept inventé par Aristote ? L'ousia, cette fameuse ousia. Est-ce qu'elle existe ? Pour les bouddhistes, elle n'existe pas. Un phénomène n'est jamais qu'une conjonction de caractéristiques momentanées. Et donc, quand on réalise ça, on n'a plus envie de trop s'accrocher aux choses comme si elles devaient durer. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque part déjà une dessaisie de l'existence et qui va nous mener petit à petit à une libération de l'esprit. Voilà. Et c'est ça vraiment le chemin bouddhique. C'est vraiment de petit à petit réaliser que une déconstruction de tout ce que nous avons construit de travers. Voilà. Un détricotage. Mais en même temps, ça aboutit pas du tout à quelque chose de négatif ou un néant, parce que le néant n'existe pas plus que l'existence pérenne de quelque chose. C'est un extrême aussi, le néant. D'ailleurs, les bouddhistes ont une plus grande phobie pour le nihilisme que pour l'éternalisme. Pour eux, c'est les deux fautes qu'on peut faire en philosophie. S'accrocher à l'éternité quelque chose et s'accrocher au néant quelque chose. Parce que la vacuité, c'est entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une voie médiane. Les choses sont vides, mais elles se manifestent, donc elles ne sont pas inexistantes. Mais leur existence n'est pas une pérennité, n'est pas une solidité, car les choses sont dépourvues d'existence en soi et par soi. Ça, c'est la philosophie de Nagarjuna qui a fait son entrée dans les écoles, en philosophie, cette année. J'ai un ami qui, d'ailleurs, est chargé de faire passer ça dans les programmes parce que, évidemment, les profs ne sont pas du tout préparés à ça. Voilà. Donc, faire comprendre Nagarjuna à nos petits chéris, ça va être... Je crois que ça va être très mal compris, en fait, parce que la plupart des profs ne vont pas comprendre. Je veux dire, moi, il m'a fallu 20 ou 30 ans pour comprendre vraiment la vacuité d'une façon claire. Vous voyez ? Bon. Mais c'est déjà bien de faire étudier un philosophe qui ne soit pas seulement dans notre sphère gréco-latine ou germanique. Hein, parce que, bon, il faut un peu ouvrir quand même. Hein. Il n'y a pas que l'Occident qui a pensé philosophie. Hein. L'Inde a énormément de philosophes. Hein. Vous savez, des philosophes bouddhistes comme justement Nagarjuna, Vasubandhu, Asanga, ils sont aussi importants qu'Aristote et Platon, du point de vue de leur pensée. Personne ne les connaît. C'est à pleurer. On est totalement ethnocentrique. On ne comprend pas vraiment ce qui se joue dans le monde. Et c'est vraiment terrible, parce qu'on perd énormément de possibilités d'ouverture. Et voilà. Donc, il y a cet aspect philosophique qui est très important, mais vous l'aurez compris, la pratique de la méditation accompagne toujours la démarche d'interrogation et de philosophie. Et on va donc avoir la connaissance couplé avec les méthodes, les moyens habiles pour pouvoir découvrir la vraie nature des choses. Si on n'a pas des moyens, des techniques en quelque sorte méditatives, yogiques et autres, eh bien on aura du mal à dépasser un simple niveau intellectuel, vous voyez, de compréhension. Or, l'intellect ne nous permet pas de nous libérer, parce que ce n'est que le niveau superficiel de l'esprit, c'est le niveau superficiel conceptuel de l'esprit. La réalité ultime n'est pas de l'ordre du concept, n'est pas de l'ordre des choses qui sont fixées par notre esprit sous une forme conceptuelle. Donc, il faut l'expérimenter, il faut la toucher vraiment directement. Et pour ça, il faut donc pratiquer la méditation, pratiquer et avoir une expérience spirituelle. Et donc, dans le bouddhisme, il y a une forme de foi, mais on évite de parler de croyance. Parce que la croyance... On sait que c'est une fabrication mentale. On sait que c'est un concept. On sait que la croyance, on peut croire à des choses complètement hurluberlues. On peut croire à ce qu'on veut si ça nous rassure. Mais ce n'est pas une réalité, la croyance. Et c'est juste une supposition qu'on essaye de faire sienne au point qu'on y croit. La foi, dans le bouddhisme, c'est quand vous avez percuté sur les enseignements et que vous les avez expérimentés dans votre propre pratique. Et là, la foi, elle s'établit. C'est une certitude. C'est un peu comme une méthode pseudo-scientifique, je dirais, ou proto-scientifique. C'est-à-dire que vous avez des propositions, mais il faut que vous les validiez par votre pratique. Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne validez pas par la pratique, alors c'est qu'une croyance de plus, une superstition de plus. Alors, bien sûr, dans le monde bouddhiste, beaucoup de gens n'acceptent pas vraiment au niveau de la compréhension des enseignements et sont un peu au niveau de la superstition, comme partout. Vous verrez en Asie des gens qui vont vénérer des statues du Bouddha d'une façon un peu idolâtre, comme on a des mamies dans les églises qui vont aller voir saint machin ou saint truc d'une manière complètement idolâtre. Hein. Partout, vous avez cette possibilité, effectivement, de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Mais dans le bouddhisme, une statue de Bouddha, c'est un rappel de l'éveil. C'est pas... on ne vénère pas la statue. Et on la respecte comme étant un symbole, mais pas... Voilà.
Une petite question au oui. travail du Bouddha.
Pardon ?
J'étais un peu surpris, entre la Chine, le Vietnam et encore pour cette partie asiatique, des tailles énormes de Bouddha Samadhi.
Ah oui.
Jusqu'au plus gros,
ouais.
avec de l'or. Et...
Ah, mais ils adorent. Ça, mais ça, c'est...
J'ai posé beaucoup de questions là-dessus.
Et ça, c'est un truc asiatique. C'est-à-dire que quelque part, d'abord, quand ils couvrent d'or ou quand ils font des offrandes, ils font des mérites. C'est-à-dire qu'ils font des actes positifs qui vont avoir qui vont leur assurer des conditions favorables qui leur permettront peut-être d'atteindre plus facilement l'éveil que s'ils ont des conditions pourries. Voilà. Donc, du coup, les Asiatiques font beaucoup d'offrandes. C'est un peu intéressé des fois. Hein. C'est pour avoir de meilleures conditions d'existence. Mais voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, la grandiosité des Bouddhas, vous la trouverez surtout dans le Mahayana. Mais quoique, même dans les pays comme la Thaïlande et autres, ils ont une tendance à avoir l'inflation des tailles. C'est un peu bizarre, moi. Je n'adhère pas trop à ça. Mais je pense que c'est toujours, en quelque sorte, faire plus grand que ce qu'on aurait...
Les offrandes sont différentes. Par exemple, vous êtes dans des restaurants asiatiques, donc on voit un petit Bouddha avec des fruits.
Oui, c'est même pas d'ailleurs le petit Bouddha, c'est généralement c'est des déités un peu locales auxquelles on fait des offrandes, c'est plutôt animiste.
Alors qu'en Asie, c'est totalement différent.
Oui, disons que, par exemple, l'essence du bouddhisme, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment comprendre véritablement la nature de la réalité et de se libérer vraiment de nos contraintes et de nos conditionnements. Et de comprendre quelles sont les contraintes et conditionnements des autres et de faire naître une compassion authentique à l'égard d'autrui. Parce que ce qu'on voit chez soi, on sait que c'est pareil chez les autres. Et on voit bien comment on galère soi-même dans la vie et comment peut-on en vouloir aux autres d'avoir peut-être d'autres modèles qui nous agacent, certes, mais qui sont sur le même modèle, parce que finalement, on est tous dans la même galère. Voyez. Et la compassion va être extrêmement importante dans le bouddhisme. Ce n'est pas une compassion passive. C'est pas, vous voyez, le mot « compassion » est un mauvais mot. Mais en fait, je crois que les bouddhistes ont pris le mot « compassion » parce que le mot « amour » était déjà pris par les chrétiens. c'est de l'amour inconditionnel. Parce que, en fait, compassion, vous voyez, c'est pâtir avec, c'est pas cool, quoi, c'est pas terrible. Et on peut se demander un peu quel intérêt de pâtir avec et puis finalement de sombrer avec l'autre. Non, la compassion dans le bouddhisme, c'est pas seulement quand quelqu'un tombe, le relever, bien sûr, il faut le relever, mais c'est de lui apprendre à ne plus tomber. Voilà, c'est lui donner les moyens de ne plus tomber et d'être autonome. Donc, c'est une activité, la compassion. Ce n'est pas un sentiment. C'est une action aussi. C'est l'action du bodhisattva. Et le bodhisattva donne de lui-même sans compter aux autres. Il oublie son petit moi et il se met au service d'autrui. Voilà. Et ça, jusqu'à l'éveil. Et même quand il sera éveillé, quand il sera un Bouddha, il continuera à œuvrer au bien des êtres. Donc, en fait, il y a du boulot pour eux. Ad aeternam, pour un Bouddha. Parce que les êtres sont tellement en nombre infini que, bien entendu, on ne va pas aller très... Ça va être très difficile de vider cet océan de souffrance. Mais c'est ça, véritablement, l'objectif du Bodhisattva dans le grand véhicule. Alors, je ne vous ai pas parlé de tous les véhicules parce qu'on a très peu de temps. Mais si vous voulez, il y a un bouddhisme fondamental qu'on appelle le bouddhisme ancien et qui a son représentant, disons, vivant actuellement dans une seule école, mais qui est répandue dans tout le sud-est asiatique, c'est l'école Theravada, l'école des anciens. Cette école, disons, va viser plus à une libération, mais je vais dire des gros mots, individuelle. C'est-à-dire, on met plus l'accent sur l'analyse de son esprit, etc., pour se libérer soi-même du samsara, c'est-à-dire ce cercle vicieux des existences conditionnées, pour atteindre le nirvana, un état au-delà des conditionnements et au-delà de la souffrance. Vers l'an zéro, à peu près, est né un autre mouvement dans le bouddhisme qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule. Et le grand véhicule, lui, s'est réparti à partir de l'Inde dans les pays de la route de la soie, et de là, il est passé en Chine, de la Chine, il est passé en Corée, au Vietnam et au Japon, et plus tardivement au Tibet. Et donc, ce bouddhisme-là met l'accent sur la compassion à l'égard de tous les êtres et sur l'idéal du bodhisattva, c'est-à-dire un être qui se dédie au bien des êtres, mais qui, pour se dédier au bien des êtres sans faire de bêtises, va évidemment cultiver la connaissance de la réalité. Donc, c'est l'union, en quelque sorte, de la compassion karuna et de prajna, qui est la connaissance discriminative, discernante, qui discerne le réel. Donc, par exemple, c'est représenté par un bodhisattva, Manjushri, c'est le bodhisattva de la sagesse. Ben, il a une épée à double tranchant, c'est-à-dire il tranche, en fait, la dualité. Son épée est enflammée parce qu'elle dissipe l'ignorance. Et de l'autre côté, il a un livre, c'est-à-dire toute la connaissance qui est nécessaire également. Voyez, et c'est un des grands bodhisattvas qui sont présentés en exemple. Il y en a deux autres. Il y en a un qui représente l'énergie infatigable du bodhisattva, parce qu'imaginez le nombre d'êtres qui souffrent et qui ne veulent pas être aidés. Il y a de quoi vraiment se décourager. Donc, il faut avoir une énergie intarissable pour pouvoir mener à bien cette vision du bodhisattva. Et lui, c'est Vajrapani, c'est le détenteur du Vajra. C'est un symbole de diamant qui représente la vraie nature de l'esprit, mais qui représente également aussi la foudre. Donc, c'est un symbole d'énergie important. Et puis, le troisième bodhisattva, c'est Avalokiteshvara, c'est la compassion. C'est le bodhisattva de la compassion qui, lui, est souvent représenté avec 11 têtes et 1000 bras, hein, parce que, en fait, il s'est efforcé de sauver les êtres de tous les enfers. Il a vidé les enfers, il a enfin réussi à vider les enfers. Il se repose un instant, il ferme les yeux, quand il les rouvre, les enfers sont à nouveau pleins. Et donc là, sa tête explose et ses bras se multiplient pour pouvoir encore être plus actif. Donc, c'est une jolie métaphore en quelque sorte, mais ça veut dire que, voilà, c'est les trois, en fait, sous ces trois formes qui sont des bodhisattvas représentés souvent hein, dans le monde tibétain ou indien, c'est en fait les trois vertus cardinales d'un bodhisattva. Il lui faut sagesse, compassion, énergie. Voilà. Et avec ça, il est équipé. Et il doit cheminer avec beaucoup de ténacité et de patience pendant des vies, parce que lui, il ne cherche pas à sortir du samsara, parce qu'il y reste pour aider les êtres. Mais petit à petit, il en est complètement affranchi du point de vue de son esprit. Donc, quelque part, quand il retourne dans le samsara pour aider les êtres, il est un peu comme un plongeur qui va plonger dans l'océan, mais sans être mouillé. Vous voyez ? Il est plus mouillé par ce qui mouille les autres. Mais il y va quand même pour les aider. Hein ? Parce qu'eux sont plongés dans l'illusion. Lui, il a la vision, mais eux, pas. Et dans l'idée du Mahayana également, un Bouddha, quand il atteint l'éveil, même quand il part en parinirvana, c'est-à-dire quand il sort de l'existence définitivement, c'est-à-dire qu'il pour nous, il meurt, en fait, c'est son apparence humaine qui disparaît, mais il a obtenu ce qu'on appelle les trois corps d'un Bouddha. Et les trois corps d'un Bouddha, c'est le corps absolu qui est sa sagesse, le corps de parfaite plénitude qui est un corps de toutes les qualités de l'éveil qui permet d'enseigner aux bodhisattvas les plus élevés, et le corps d'apparition qui lui permet de revenir sous une forme manifeste pour aider les êtres en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est précisément les maîtres qui reviennent, ou par exemple le Dalai-lama qui est considéré comme un tulku, c'est un nirmanakaya, un corps d'apparition, pour aider les êtres qui sont ici. Et donc, un nirmanakaya d'un Bouddha, si vous voulez, va prendre la forme adéquate à son objet. C'est-à-dire, si un être, s'il doit aider des éléphants, il ne va pas prendre la forme d'un tigre, c'est sûr. Il va plutôt prendre la forme d'un éléphant. Voyez, et s'il veut aider les êtres humains, bah, il va prendre la forme humaine. Mais c'est une forme illusoire qui va se conformer simplement aux besoins des êtres. Voilà. Alors là, on a une sorte de bouddhologie qui correspond un peu à la trinitologie dans le christianisme, vous voyez. Sauf que c'est un principe d'éveil en trois corps plutôt qu'une trinité d'un Dieu unique sous trois manifestations. Hein. Mais il y a beaucoup de rapports parce que, enfin, c'est pas la même chose. Hein. Je dis pas que c'est la même chose, mais il y a beaucoup de rapports parce que c'est l'aspect trinitaire est présent. Et c'est le plus intéressant du point de vue spirituel. L'aspect trinitaire est nécessairement mobile et dynamique. Voyez c'est plus dynamique que le 2, hein, le 3. Et donc ça, c'est très intéressant parce que dans le bouddhisme, on va dire, c'est le dynamisme de la compassion des Bouddhas, l'aspect trinitaire des trois kayas, des trois corps, alors que dans le christianisme, on va dire, c'est la dynamique de l'amour de Dieu pour les êtres. Vous voyez ? Donc il y a des rapports quand même. À ce niveau-là. Et dans le Mahayana, après, il y a un véhicule qui va surgir du Mahayana pour son efficacité de méthode, qui sera identique du point de vue de la philosophie, mais qui, dans les méthodes, va déployer des moyens extrêmement puissants, parce qu'on va travailler au niveau des énergies internes du corps, avec des yogas extrêmement sophistiqués. C'est ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule de diamant, c'est-à-dire les tantras. Mais les tantras n'ont rien de dévoyé ou de quoi que ce soit. Non, non, c'est un moyen très efficace pour atteindre l'éveil le plus vite possible. L'idée, là, c'est d'atteindre l'éveil le plus vite possible pour aider encore mieux les êtres. Donc, parce qu'une Mahayana classique, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de vie pour atteindre l'état d'éveil. Là, il y a un booster. C'est la méthode. Donc, il y a énormément de méthodes habiles. On dit, par exemple, que les émotions, par exemple, considérées comme négatives, ne le sont pas pour le tantra, parce que, en fait, c'est des matériaux d'éveil. La colère, par exemple, c'est de la clarté, en réalité. Si vous regardez bien quand vous êtes en colère, vous apercevrez que vous avez un certain tranchant dans la colère. Pas toujours bien utilisé, mais il y a de la clarté derrière. En fait, c'est une énergie extrêmement puissante. Si on arrive à la transmuter par des méthodes, ça devient de la pure clarté de l'esprit. Et c'est plus de la colère, parce que pour qu'il y ait une colère, il faut qu'il y ait un objet. Il faut croire en l'objet de la colère. Si vous enlevez l'objet, il n'y a pas de sujet non plus, et vous atteignez une pure énergie qui était celle de la colère, mais qui n'est plus de la colère. Et vous pouvez la diriger complètement autrement. Donc, c'est un principe de transmutation. Ce n'est pas un principe de renoncement, c'est un principe de transmutation. Évidemment, il y a des règles très précises pour que ça puisse fonctionner, parce que, étant donné que ça va travailler au niveau de l'énergie la plus fondamentale de l'individu, il ne faut pas se planter. Parce que ça peut nous détruire aussi, si on l'utilise mal. Par exemple, les méthodes tantriques utilisées pour un but égotique, ça devient tout simplement une sorte de magie noire. Et là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, vous détruisez, quoi, tout simplement. Et c'est tout à fait possible que des gens... quand ils voient qu'ils ont un certain pouvoir spirituel, l'utilisent mal. Vous voyez, s'ils ne sont pas suffisamment mûrs spirituellement. D'où une éthique très rigoureuse dans le tantra, avec ce qu'on appelle les samayas, qui sont des liens sacrés, qui lient le disciple à son maître et à la méthode. Il est engagé jusqu'à l'éveil dans des vœux précis. Il ne doit pas les laisser tomber. S'il les laisse tomber... Il y a des confessions, il y a des purifications, il y a des pratiques à faire pour réparer ses vœux. Et c'est extrêmement important On dit sinon, un pratiquant qui ne répare pas ses vœux dans les tantras, il va dans l'enfer du Vajra, c'est-à-dire l'enfer le pire qui soit. L'enfer, entre parenthèses, chez les bouddhistes, ben c'est également une projection de notre esprit. Ce n'est pas un enfer qui nous attend, c'est l'enfer que nous fabriquons. De même que les lieux célestes, c'est des choses que nous fabriquons. Donc en fait, vous voyez, il y a vraiment un accent sur que c'est l'esprit qui crée le monde, c'est l'esprit qui crée les circonstances, c'est l'esprit qui crée tout le bonheur et toute la souffrance. Donc, si on veut avoir la clé de notre existence véritable, il faut comprendre notre esprit. Mais pas seulement au niveau ordinaire. Aller au très fond de l'esprit. Voilà. C'est ça vraiment quel est l'objectif du bouddhisme. Oui. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est assez universel. Hein, c'est pas étonnant que ça soit une religion à vocation universelle, parce que quelque part, l'esprit humain, ben, que vous soyez en Chine, au Japon, en Cambodge, ou alors ici, si vous regardez bien les ressorts de l'esprit, même s'il y a des traits culturels différents, les êtres humains sont quand même assez semblables à bien des égards au niveau de leur comportement, justement égotique, etc. Donc, on traite les mêmes mots sur toute la planète. Donc, on peut dire que c'est une forme de grande thérapie, hein, le bouddhisme, mais ce n'est pas une simple thérapie non plus.
Je peux vous
interrompre, oui.
Pardonnez-moi.
Oui, oui.
Parce que j'ai oublié. Vous avez dit qu'en fait, il fallait plusieurs vies pour parvenir à cet éveil, à ce mode de sagesse. Mais quand vous dites plusieurs vies, ça veut dire que, un peu comme à l'image des hindouistes, on peut passer... D'une âme, enfin, il y a ce transfert d'une âme est possible dans un autre corps si une vie ne suffit pas. C'est la métempsychose, en fait. Est-ce que c'est.
Oui, mais c'est une métempsychose d'un flux psychique qui n'est pas une âme, parce qu'elle change à chaque instant. Donc, il n'y a pas de concept pérenne non plus. C'est-à-dire que notre esprit, il est constamment alimenté par des nouvelles variations. Et il n'est jamais identique à lui-même. Donc, on ne peut pas dire que ça soit une entité solide. C'est ça qui est difficile pour les Occidentaux. C'est de comprendre que l'esprit, c'est comme un flux, c'est comme un flot. Un flot, c'est jamais la même eau. Même si vous appelez la Seine, tous les jours, c'est jamais la même eau qui coule. Vous voyez ?
C'est une métempsychose, mais c'est pas une âme.
On se transforme constamment. Mais par contre, il y a quand même des choses qui sont résiduelles et qui peuvent rester un certain temps. Et il faut s'en débarrasser, parce qu'elle nous conditionne. Et ça peut durer sur plusieurs vies.
Donc, c'est une forme de métempsychose.
C'est une forme de métempsychose, mais sans âme.
D'accord.
Avec un flot, un flot psychique qui traverse effectivement les barrières que sont les morts et les conceptions. Voilà. Mais la mort n'est qu'un changement d'aspect dans l'existant. Ça n'existe pas.
Enfin, ça nous rapproche de la religion chrétienne.
Oui, un peu, sauf que là, il n'y a pas une éternité, on ne joue pas tout notre va-tout dans cette vie pour une éternité qui sera bonne ou mauvaise. Non.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça la différence quand même.
Merci.
Oui.
La première, on dit que le yoga est proche du bouddhisme, alors je voudrais savoir.
Il y a des yogas bouddhistes.
Voilà, on parle beaucoup de.
Mais il y a des yogas hindous. Voilà. Il y a les deux. Oui, c'est les méthodes.
Quelle est la hiérarchie des degrés d'élévation quand on parle de zéro à la naissance jusqu'à un certain degré?
Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie dans le bouddhisme parce qu'en fait, il y a des êtres qui sont plus ou moins éveillés et on ne va pas considérer que c'est des galons. Parce que ça sera des galons pour qui? Pour l'ego. Or, l'ego est une pure illusion. Donc, on s'en fout de la hiérarchie. Par contre, quand il y a des êtres qui sont plus éveillés que d'autres, ben, ils servent les autres. Ils sont au service. Donc, voilà. Maintenant, tout ça, c'est idéalement ce que devrait être le bouddhisme. Maintenant, des fois, les hommes, vous savez, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Donc, dans les pays bouddhistes aussi, ou chez les bouddhistes, il y a aussi des brebis galeuses. Bon, c'est normal. Bon. Mais disons que quand même, il y a quand même pas mal de garde-fous. Vous voyez ? on va pas tomber sur des espèces de hiérarchies cléricales complètement confites dans leur rôle, qui ne bougent pas, qui sont des vraies momies en poste. Non, ce n'est pas le but, quoi. Maintenant, je vous dis, rien n'est parfait. Tant qu'on n'est pas éveillé, il peut y avoir des tas d'erreurs, des tas de fautes. C'est normal.
Pour situer le dernier branche, je vous dis ce que tu as évoqué là.
Oui.
Alors, le diamant, c'est quel.
Alors, ça, ça s'est manifesté en Inde. En Inde.
À quelle époque
ça, à partir du 4e, 5e siècle, ça commence. Et puis, ça va se développer en Inde jusqu'au 11e, 12e siècle. Pourquoi ça s'arrête au 12e siècle? Tout simplement parce que les musulmans mettent fin au bouddhisme en Inde, brutalement, en détruisant tous les grands centres. Par contre, ça va continuer au Népal et au Tibet. Au 8e siècle, ça va passer au Tibet. Et en deux vagues, 8e et 11e. Et là, ça va vraiment se déployer complètement. Mais le bouddhisme tibétain n'est pas qu'un bouddhisme tantrique. C'est un bouddhisme de renoncement avec les vœux monastiques pour ceux qui sont moines. Les laïcs ont des vœux aussi à prendre s'ils veulent. Ensuite, il y a le Mahayana, c'est-à-dire le véhicule de la compassion et de la vacuité qui s'appuie sur le renoncement. Et dessus, il y a le toit du Vajrayana, avec le fait du Dzogchen, qui est le chemin le plus élevé, qui n'est même plus du Vajrayana. Parce que là, il n'est même plus question d'une transmutation, il y a une question d'auto-libération de tout ce qui s'élève dans l'esprit. Donc ça, c'est encore beaucoup plus libre comme méthode. Et là, dans le Dzogchen, il n'y a aucun aspect religieux en tant que tel. C'est une pure voie spirituelle sans religion. Vous voyez ? Il n'y a absolument rien, rien n'empêche, même dans les conditions les pires, que de pratiquer le Dzogchen. Je veux dire, on peut être en prison, on peut être dans des tas de conditions terribles. Si on a reçu des enseignements de chaîne, on peut se libérer dans n'importe quelle condition. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas sans effort, bien sûr. Mais l'effort, c'est vraiment de travailler sur son esprit directement et sans artifice. Donc, c'est un chemin qui, évidemment, doit être présenté par un maître. On doit avoir un aperçu de la vraie nature de notre esprit, déjà, à travers une sorte de transmission directe. À partir de là, si vous voulez, on sait de quoi il s'agit et on sait qu'on ne va pas se tromper avec l'esprit ordinaire, on ne va pas confondre. Donc, l'intérêt, c'est qu'on va essayer de rester dans cet état ou d'y revenir. Et plus on y reviendra, et plus ça va se manifester, plus ça se manifestera, et plus les états illusoires vont s'y dissoudre, naturellement. À tel point qu'un maître du Dzogchen, s'il travaille vraiment bien, même son corps, au moment de sa mort, va disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, il va redevenir lumière, parce qu'il n'a jamais été autre chose qu'une énergie lumineuse de la sagesse qui a été condensée en éléments physiques par le karma. Si le karma est complètement libéré, tout ce qui a été construit par le karma va se dissoudre. Et donc, ça fait de la place dans le cimetière. Malheureusement, les corps d'arc-en-ciel ne sont pas nombreux. Mais il y en a. Et il y a encore eu des corps d'arc-en-ciel récemment, puisque même un franciscain, Francis Tizot, a fait toute une enquête au Tibet il y a quelques années. Et d'ailleurs, on l'invite à Louvain-la-Neuve pour faire un séminaire là-dessus l'année prochaine, parce qu'on voulait le faire cette année, mais on n'a pas pu. Francis Tizot a travaillé justement, en tant que franciscain, dépêché par son supérieur, étudier ce cas-là parce que ça les intéresse, les chrétiens. Pourquoi ? Parce que ça ressemble beaucoup à la disparition du Christ du tombeau. Hein ? Voilà. Donc, nous, on a fait un article avec mon doctorant, on a fait un article sur le corps d'arc-en-ciel dans la revue théologique de Louvain. Ça, c'est une sacrée ouverture parce que c'était pas évident de faire passer un truc pareil. Mais comme ça les accroche au niveau justement de la disparition du Christ au moment de sa résurrection, évidemment, il y a des discussions possibles. Voilà. Mais ça, c'est dans le Dzogchen seulement. Sinon, les Bouddhas ou les grands êtres, quand ils meurent, il y a une crémation généralement, il peut y avoir des reliques, effectivement. Alors, c'est comme aussi dans le christianisme, il y a aussi la possibilité de reliques et de phénomènes paranormaux qui se produisent à ce moment-là, qui indiquent que l'être, en fait, était vraiment réalisé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez touffu, tout ça. c'est très difficile d'en dire. Vous voyez, j'espère que ça vous a ouvert un monde. Parce qu'en fait, on peut bien faire plus en si peu de temps. Vous voyez ? Mais c'est extrêmement riche. Vous voyez, ça fait 40 ans que j'étudie, ça fait 40 ans que je traduis des textes du tibétain. Je veux dire, je ne m'en suis pas lassé. Hein. Et je sais que j'aimerais avoir une vie suffisamment longue et claire pour pouvoir continuer longtemps. Et puis, faire quelques prières pour que dans les vies suivantes, je puisse continuer. Parce que je sais que je n'aurai pas fini. Voilà.